Chapitre 7. Saint Thomas More, le prix inestimable de la vérité. L'un des grands esprits de la Renaissance. C'était un homme tel que, depuis des siècles, le soleil n'en avait pas vu de plus loyal, de plus franc, de plus dévoué, de plus sage. C'est ainsi qu'Erasme de Rotterdam parlait de Sir Thomas More, le grand chancelier du royaume d'Angleterre, qui, le 6 juillet 1435, fidèle à la voix de sa conscience, montait sur l'échafaud pour avoir refusé de suivre le roi Henri VIII dans sa rupture avec Rome. Thomas More était l'un des grands esprits de la Renaissance. Juge, philosophe, diplomate, théologien, auteur renommé, il entretenait des rapports d'échange et d'amitié avec les plus importants protagonistes de la culture humaniste en Europe, notamment avec Erasme. Celui-ci avait pour More une admiration spéciale. Il le considérait comme l'unique génie de l'Angleterre et il lui rendit souvent visite au cours de son existence. Plusieurs traits se dégagent de cette personnalité très riche qui la rendent particulièrement attachante. D'abord sa culture et sa largeur d'esprit. More avait étudié le droit à Oxford et à Londres et s'était intéressé à des vastes secteurs du savoir, de la théologie et de la littérature classique. Il laissera une œuvre écrite importante, dont sa fameuse Utopie, qui le place sans conteste au rang des plus éminents humanistes et des plus profonds visionnaires de la Renaissance. Il y décrit d'une manière allégorique la société idéale du futur. Il s'agit en fait d'une satire politique pénétrante et empreinte d'humour, dans laquelle il dénonce les tares de la société de son temps. Inflation, corruption, dureté envers les pauvres, guerre futile ou totalement inutile, ostentation des courtisans, abus de pouvoir des monarques absolus. Parmi d'autres constats et affirmations, on trouve dans cette œuvre comme une prémonition des choix et des valeurs qui scelleront son destin. La proclamation du droit au respect de la conscience et la critique de l'emploi de la contrainte, même pour imposer un credo religieux. On a pu dire que l'utopie est le premier évangile de l'idée moderne de tolérance. Thomas More a connu une carrière politique extraordinaire. Bien que dénué d'ambition sociale et politique, il fut amené à accepter, parfois contre sa volonté, plusieurs tâches et fonctions qui le plongeront au cœur de la vie publique du royaume d'Angleterre. Il se trouva mêlé à la vie du petit peuple de Londres par sa profession d'avocat et ses fonctions de juge. Puis, par les divers postes qu'il occupera à la cour, il sera impliqué dans la vie politique de l'Europe de son époque. Il fut l'homme de confiance du roi qu'il représentera en particulier au traité de Cambrai, où ses talents diplomatiques épargneront à l'Angleterre la guerre sur le continent pendant 13 ans. La réputation de More reposait en fait autant sur les hautes fonctions qu'il eut à remplir et sur ses abondantes publications et exposés théologiques que sur sa droiture et son naturel, qui inspiraient une profonde sympathie. Peut-être est-ce parce que tout en vivant dans le monde, More donnait l'impression d'en être détaché par sa façon de vivre, qu'il séduisit tant de ses contemporains. Il savait plaisanter d'un cœur léger, être accueillant et bienveillant, intègre et responsable dans l'accomplissement de ses charges, serein dans les difficultés. Il participait à la vie de la haute société, dit Erasme, en y étant agréable, mais sans ostentation et vanité, en étant si merveilleusement négligent pour toutes ces cérémonies en quoi tant d'autres se figurent que la politesse consiste. Erasme, qui passa de longs séjours chez lui, était séduit par l'atmosphère simple et chaleureuse qui régnait dans sa famille. Sa maisonnée était composée de plusieurs enfants et de serviteurs auxquels s'ajoutèrent, au fil des années, d'autres membres de sa famille, dont son propre père, ses gendres, et également des pauvres, des veuves, des vieillards seuls, recueillis dans l'exercice de son métier. Il s'occupait de l'éducation de ses enfants avec soin et avec une largeur de vue particulièrement moderne.
Il était fortement partisan d'une éducation plus poussée pour les filles, fondée notamment sur l'étude des œuvres classiques et de la philosophie. Antidote nécessaire, disait-il, aux fastidieuses leçons de musique, de couture et de cuisine. Erasme était impressionné par l'érudition littéraire des filles de More, qui lisaient couramment les auteurs latins et discutaient souvent dans cette langue à la maison. On a dit, et l'on n'a certes pas exagéré, que Thomas More était l'homme le plus moderne de son temps. Sa personnalité était particulièrement attachante, car ses dons naturels, loin d'être écrasants, s'effaçaient discrètement derrière la simplicité et la finesse, et surtout la noblesse et la droiture, de son caractère. Un message qui traverse les siècles. Cependant, ce en quoi il laissera un message universel destiné à traverser les siècles est le témoignage qu'il donna en renonçant à tout et jusqu'à sa propre vie pour être fidèle à la vérité et à la voix de sa conscience. Quand en 1529, au fête de sa carrière, il fut nommé grand chancelier d'Angleterre, le second personnage du royaume, le roi Henri VIII est déjà épris d'Anne Boleyn, dame d'honneur de la reine Catherine d'Aragon. On sait comment le roi, voulant obtenir l'annulation du mariage, s'adressa au pape pour demander que la cause soit jugée par la cour de justice du royaume. Face au refus du pape, Henri VIII passa outre. Il fit annuler son mariage par Thomas Cramer, aumônier de la famille Boleyn, et se maria avec celle-ci, 1533. Le pape répondit en excommuniant le roi, la nouvelle reine et Cramer. Dès lors, la rupture avec Rome fut consommée définitivement. Le Parlement déclara le roi et ses successeurs uniques chefs de l'Église d'Angleterre. Le pouvoir et revenus pontificaux passaient au roi. Les sujets devaient reconnaître par serment cette situation et quiconque refuserait le serment serait accusé de haute trahison et passible de mort. Confronté à ces événements, face auxquels il aurait été amené de prendre des positions qui mettaient en cause ses convictions les plus profondes, Thomas démissionna de son poste de grand chancelier, prétextant des raisons de santé, mais personne n'était dupe. Lors du couronnement d'Anne Boleyn, il s'abstint de participer à la cérémonie. Il se retira de la vie publique, acceptant de supporter qu'avec sa famille, la pauvreté et l'abandon de beaucoup de personnes qui, dans l'épreuve, se révélèrent de faux amis. C'est sans doute avec un sourire empreint de tristesse et de douceur que More, comme son gendre le raconte, réunit les siens et leur tint ses propos. J'ai vécu à Oxford, puis au palais, puis à la cour du roi, montant ainsi du plus pauvre degré au plus élevé. Et maintenant, comme revenu annuel, il ne me reste plus qu'une centaine de livres. Il faut donc, si nous voulons continuer à vivre ensemble, que chacun apporte sa contribution. Mais si vous m'en croyez, nous ne nous mettrons pas au plus pauvre régime, non, ni le menu d'Oxford, ni même celui des jeunes avocats. Nous vivrons au régime de Lincoln's Inn. Si nous ne pouvons nous y maintenir, nous descendrons d'un cran au régime des stagiaires. C'est encore assez pour un honnête homme. Si cela est encore trop haut, l'an d'après, nous vivrons comme à Oxford. Enfin, quand nous serons au bout de ressources, nous irons, tous ensemble et de joyeuses compagnies, demander aux bonnes gens de nous faire l'aumône, et nous chanterons le Salve Regina à chaque porte, comme les pauvres étudiants d'Oxford. Convoqué en 1534 pour prêter le serment légitimant la suprématie du roi, il refusa de le faire et fut enfermé dans la prison de la Tour, où il demeurera 15 mois, avant de monter sur l'échafaud pour être décapité. Au cours du procès intenté contre lui, Thomas More prononça une apologie passionnée de ses convictions sur l'indissolubilité du mariage, le respect des lois inspirées des valeurs chrétiennes, la liberté de l'Église face à l'État. La noblesse de son caractère ne s'est peut-être jamais mieux manifestée qu'au moment où il fut condamné à mort par ses juges. Les dernières paroles qu'il leur adressa furent pleines de modération et de dignité. « J'espère en vérité et prierai fermement pour que vos seigneuries, qui avaient été mes juges et m'avaient condamné sur la terre, et moi-même, puissions tous nous rencontrer joyeusement au ciel pour notre salut éternel. Dans cet espoir, je prie Dieu qu'il vous garde tous, et particulièrement mon Seigneur le Roi, et qu'il daigne toujours lui envoyer de fidèles conseillers. Cette période de la vie de Thomas More passée en prison est particulièrement émouvante. À la Tour de Londres, il souffrait du froid humide, de crampes, d'une angine de poitrine et aussi de l'angoisse naturelle face à la mort qui approchait. Cependant, sa souffrance principale fut peut-être celle du cœur et de l'âme, d'être rejeté par son roi et son pays, de mourir comme un traître, incompris de ses proches et même de sa chère fille Margaret, qui venait le voir à la tour et avec qui il se confiait. Il était de plus en plus proche du dénûment du Christ. La méditation de l'agonie de Jésus dans le jardin des Oliviers, de la tristesse, la peur et le dégoût qui inondèrent l'âme du Seigneur sera l'objet de sa prière durant ces mois terribles dans le cachot. Elle lui inspirera son dernier écrit, la tristesse du Christ, émouvante contemplation de la prière de Jésus à Gethsémani. Le livre est inachevé. Il s'arrête au moment où tous les apôtres s'enfuient et que l'on mit pour la première fois la main sur Jésus, comme disent les derniers mots du manuscrit. À ce point, More se vit confisquer tout ce qu'il avait pour écrire, et les conditions de sa réclusion se firent beaucoup plus sévères. Quelques jours après, la hache du bureau s'abattait sur lui. Dans le dénouement tragique de sa vie, Thomas More nous apparaît comme étant d'un courage et d'une intégrité exceptionnelles. Tout en étant lucide sur les défauts et les erreurs qu'il voyait dans l'Église et qu'il ne manquait pas de signaler, il ne pouvait pas transiger avec la vérité, avec la foi, avec sa conscience. Le fait grave, pour lui, c'était que le pouvoir spirituel était avili et que le pouvoir temporel occupait une place qui n'était pas la sienne. Et sa lucidité politique, qu'il avait déjà exercée dans l'utopie, lui faisait entrevoir dans l'usurpation du pouvoir spirituel du Saint-Siège par le roi l'effondrement de l'unité organique morale, sociale et politique de la chrétienté. Il voyait l'Europe désunie, divisée, et que cela conduirait à des guerres de plus en plus fréquentes, à la multiplication des sectes. Ce qui explique l'éloge qu'en faisait Winston Churchill en lui recommençant une place de choix dans l'histoire. L'opposition de More et de Fisher au pouvoir suprême que le roi prétendait exercer sur l'Église était un acte de résistance héroïque et noble. Les défauts du catholicisme de leur temps ne leur échappaient pas, mais ils détestaient et redoutaient le nationalisme agressif qui était en train de détruire l'unité de la chrétienté. More prit la défense de tout ce qu'il y avait de meilleur dans la conception médiévale. Il incarne aux yeux de l'histoire l'universalisme du Moyen-Âge, son adhésion à des valeurs spirituelles et son sens instinctif de l'au-delà. La hache cruelle du bourreau n'a pas seulement tranché la tête d'un conseiller sage et talentueux, elle a décapité du même coup un système qui, même s'il avait trahi ses idéaux dans la pratique, avait longtemps inspiré à l'humanité ses rêves les plus radieux. On peut dire que, par le message qu'il nous livre, Thomas More était un homme pour l'éternité, comme le qualifiait le titre d'un beau film qui lui a été consacré dans les années 60. La splendeur de la vérité. Ses biographes racontent que More monta sur l'échafaud avec sérénité, et même en gardant son humour de toujours, anglais jusqu'au bout, sans se laisser raidire par la peur ni faire étalage d'héroïsme. Il encouragea, avec une sympathique plaisanterie, l'un de ses bons amis qui ne pouvait retenir ses larmes. Il recommanda au bourreau de faire attention à ne pas abîmer sa barbe, car, lui dit-il, elle n'a commis aucun mal. Il lui donna aussi un pourboire pour sa tâche, en le remerciant de l'avoir aidé à monter sur l'échafaud. Pour descendre, lui dit-il, ce ne sera pas nécessaire. Cependant, au fond de son âme, il était, comme tout homme, serré par l'angoisse et l'appréhension de la mort. Ce qui soutenait ses forces était sa foi inébranlable, l'assurance que l'on ne peut transiger avec sa conscience. Bien sûr, Meg, avait-il confié à sa fille, tu ne peux avoir un plus faible, un plus frêle cœur que ton père. Et en vérité, ma chère fille, c'est là ma grande force, que, bien que ma nature répugne si fort à la souffrance, qu'une chiquenaude me ferait presque trembler. Pourtant, dans toutes les agonies que j'ai souffertes, grâce à la pitié et à la puissance de Dieu, je n'ai jamais pensé à consentir quoi que ce fût contre ma conscience. Et un jour que Margaret le pressait de changer d'avis, il lui répondit avec douceur et détermination. « J'ai pensé tout cela, Margaret, pendant mes nuits d'insomnie. Tandis que ma femme dormait, croyant que j'étais moi-même endormie, j'ai pesé le péril qui pouvait m'échoir. J'ai calculé si serré, prévu si loin, que, maintenant, j'ai la certitude que rien d'imprévu ne peut m'arriver. Et, en pesant toutes ces choses, j'avais le cœur bien lourd. Néanmoins, je remercie Dieu, parce que, malgré tout, je n'ai jamais songé à revenir en arrière. Et la dernière des choses qui puissent m'arriver, par hasard, c'est que ma frayeur prenne le dessus. » Magnifique et lumineux exemple de cohérence que l'on a comparé à celui de Socrate ou à celui d'Antigone, l'héroïne de la tragédie de Sophocle. Dans une scène remarquable d'intensité, celle-ci n'hésite pas à affronter la mort pour avoir donné sépulture au cadavre de son frère, en bravant l'interdit du roi Créon. Les lois établies par les hommes, déclare-t-elle, ne peuvent pas supprimer les lois non écrites et immuables des dieux. Le martyr qui va jusqu'au bout de son témoignage, jusqu'au sacrifice de sa vie, est comme une lumière resplendissante pour l'humanité. Comme le dit Jean-Paul II, il confirme de manière particulièrement éloquente le caractère inacceptable des théories éthiques qui nient l'existence de normes morales, valables sans exception. De tels témoignages ont une valeur extraordinaire en ce qu'ils contribuent à éviter que l'on ne sombre dans la crise la plus dangereuse qui puisse affecter l'homme, la confusion du bien et du mal, rendant impossible d'établir et de maintenir l'ordre moral des individus et des communautés. La dictature du relativisme. La droiture et la dignité du comportement de Thomas More contrastent avec l'attitude nonchalante que l'homme moderne a adoptée vis-à-vis de la vérité. La possibilité d'atteindre la vérité sur les valeurs essentielles semble à beaucoup illusoire. Un consensualisme relativiste, complaisant, s'impose de plus en plus dans les mentalités et dans les comportements. Il faut préciser que l'attitude relativiste ne consiste pas à se dire qu'il n'y a pas de vérité, ce qui en soi serait absurde, mais à soutenir que tout ce qui a trait aux valeurs, aux phénomènes religieux et aussi aux réalités surnaturelles, ne nous est accessible que d'une manière limitée et incomplète, si limitée et si incomplète que nous n'avons pas le droit de les ériger en absolu, car nous risquerions de ne pas respecter l'autre. Comme ces aveugles de la vieille parabole indienne, citée dans une conférence à la Sorbonne en 1999 par le cardinal Ratzinger. Ils ont été réunis et on leur propose de toucher un éléphant. L'un tâta les oreilles, l'autre la trompe, un autre la peau, un autre encore la queue. L'un affirma alors que l'éléphant a la forme d'une grosse corbeille, l'autre qu'il est comme un serpent, un autre qu'il est comme un tapis en osier. Chacun disait posséder la vérité, et de ce fait, ils en vinrent à se disputer. Il en irait ainsi, dit-on, quand on prétend absolutiser des vérités sur la nature humaine, sur le fait religieux, etc. Il vaut mieux accepter le caractère relatif de nos idées, non seulement à cause des limites de notre savoir, mais aussi comme condition indispensable pour la démocratie et pour une société pacifique. Comme le disait le futur pape Benoît XVI, le relativisme s'avère être la difficulté la plus grande de notre époque. Dans une homélie qui est devenue célèbre, lors de la messe précédant l'entrée en conclave qu'il élut pape, le cardinal Ratzinger parlait de la dictature du relativisme qui caractérise notre temps. Le mot n'est pas trop fort, comme on le voit dans la manière dont on aborde le débat avec ceux qui défendent des valeurs essentielles sur la nature humaine. Si quelqu'un affirme, par exemple, que l'hétérosexualité appartient à l'essence du mariage, on l'accusera de fondamentalisme religieux, d'intolérance, d'esprit anti-moderne. L'on n'essaiera même pas de dire que la thèse contraire est vraie, c'est-à-dire que l'on ne cherchera pas à démontrer que le mariage peut être ouvert aux autres personnes du même sexe. Ce qui caractérise la mentalité relativiste, c'est de penser que cette thèse est une thèse qui existe dans la société, à côté de son contraire, et peut-être d'autres aussi, et qu'en définitive, elles ont toutes la même valeur et le même droit à être socialement reconnues. L'on n'oblige personne à se marier avec quelqu'un du même sexe, mais celui qui veut le faire doit pouvoir le faire. C'est le même raisonnement qui justifie aussi la légalisation de l'avortement et d'autres atteintes à la vie humaine, comme par exemple l'euthanasie. L'on n'oblige personne à avorter, mais si quelqu'un pense qu'il doit le faire, il doit pouvoir le faire. Ainsi, il n'y a plus de débat, mais des étiquettes que l'on colle, des manières de penser que l'on stigmatise de rétrograde, intolérante et inacceptable, car contraire aux libertés individuelles. Véritable dogmatisme qui serait censé abolir les divers dogmatismes. Le relativisme est une anesthésie de l'esprit dont il coupe les ailes dans son aspiration à la vérité. Le plus étonnant est que le relativisme est proclamé comme un dogme préalable à toute analyse sérieuse du problème, sans se rendre compte de ce qu'il y a de contradictoire dans cette attitude. On évoque tout au plus le caractère fragmentaire de notre connaissance, le respect de l'opinion des autres, la sauvegarde de la paix sociale. Ces arguments peuvent sembler irréfutables, et, aux yeux de bien des gens, ils le sont effectivement. Ils ne sont d'ailleurs pas complètement faux et ils contiennent une partie de vérité. Ils reposent cependant sur un sophisme et représentent un réel danger pour l'homme, pour la culture et même pour l'établissement d'une véritable tolérance dans les relations humaines. Le sophisme consiste à prétendre que, en regardant la réalité, nous sommes comme des aveugles qui tâtent une partie de l'éléphant. Que l'on puisse se tromper et qu'effectivement l'on se trompe parfois, voire souvent, c'est une chose. Que l'on se trompe toujours comme un aveugle, c'est autre chose et c'est même faux. Nous ne sommes pas si aveugles que ça. La raison humaine a le don inestimable de pouvoir se transcender. Elle n'est pas rivée aux contingents et aux particuliers. Elle peut parvenir à ce qui est essentiel, discerner des valeurs permanentes, stables et indiscutables. C'est ainsi que l'homme a pris conscience de certaines exigences dont on peut estimer à juste titre qu'elles doivent être toujours à la base des relations humaines, comme la tolérance justement, ou le droit à la liberté, au respect. Qui pourrait dire, par exemple, que l'abolition de l'esclavage ou le rejet du racisme ne sont que des expressions culturelles de notre époque, pour s'exprimer comme le font les adeptes du relativisme ? Et qu'un jour, le fait d'asservir les autres ou de tenir des propos racistes ou intolérants doivent être respectés au nom de la tolérance. Que l'esclavage ou le racisme pourrait un jour constituer une possibilité tout à fait acceptable dans la manière d'envisager les rapports humains. Tout homme sensé rejette instinctivement une telle perspective. Et s'il la rejette, c'est que, au-delà des aspects contingents, passagers, partiels ou subjectifs de notre connaissance, il a su capter quelque chose de stable et d'universel dans la nature humaine. Qu'on appelle cela comme on le veut, mais au fond, cela revient à dire que l'on peut porter des jugements qui ont une valeur absolue et immuable, qui reposent sur une perception de quelque chose de stable et de permanent de la réalité. Qu'après, l'on se trompe, que l'humanité avance à tâtons, que parfois, il faut bien l'admettre, on dirait qu'on recule, c'est un fait. Il n'est pas moins vrai qu'il existe des situations face auxquelles l'homme peut et doit se dresser comme juge pour les condamner et les rejeter en tant que contraire à la dignité humaine. Et s'il ne le fait pas, il manque à son devoir. Il se rend complice des escrocs et des faussaires, disait Peggy. On croit qu'en faisant l'impasse sur la vérité, on respecte les personnes. On ne les respecte pas, en fait, en leur déniant le bien le plus précieux, la capacité de parvenir à la vérité. Et quand on ne respecte pas l'homme dans sa dimension transcendante, on l'expose à toutes sortes de manipulations. Certes, on peut manipuler les hommes en exploitant leur aspiration à la vérité, voire en se servant de la vérité elle-même, comme cela s'est produit malheureusement au cours de l'histoire. Mais on les manipule encore plus par le mensonge, l'anesthésie des consciences, l'insensibilisation aux valeurs. La mentalité relativiste affirme que défendre et enseigner certaines vérités sur l'homme, c'est contraindre les consciences et limiter leur liberté. C'est faux. C'est la méconnaissance de la vérité sur l'homme qui conduit à la limitation de sa liberté. Une machine finit par casser si on l'emploie sans connaître les règles d'utilisation. La nature humaine finira par casser si l'on prétend se passer de la connaissance de son fonctionnement. L'homme moderne, que l'on voudrait bâtir ingénument sans référence universelle, risque de s'effondrer tragiquement, comme un pont qu'on aurait voulu édifier en prétendant s'affranchir des règles de la construction. L'engagement des catholiques dans la politique. Dans la ligne du relativisme, il n'est malheureusement pas rare de rencontrer, dans des déclarations publiques, des assertions qui soutiennent que le pluralisme éthique est la condition de la démocratie. D'une manière plus spécieuse, il est aussi des hommes politiques qui soutiennent une sorte de théorie de la double vérité. Une chose, disent-ils, ce sont mes convictions personnelles. Autre chose, l'attitude politique à prendre en fonction de mon électorat ou des positions du groupe parlementaire auquel j'appartiens, etc. Je ne peux tout de même pas imposer mes convictions. On se demande s'ils ont des convictions. D'autres encore, et c'est là le cas le plus fréquent, confondent légalité et moralité. Dès qu'une loi autorise un comportement, par exemple l'avortement, alors ce comportement est moralement légitime. En l'année 2002, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une note doctrinale concernant l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Voici quelques extraits particulièrement intéressants et d'actualité. On assiste à des tentatives de législation qui visent à briser le caractère intangible de la vie humaine, sans tenir compte des conséquences qui en découlent pour l'existence et l'avenir des peuples, dans le domaine de la formation de la culture et des comportements sociaux. Dans une telle situation, les catholiques ont le droit et le devoir d'intervenir pour rappeler le sens le plus profond de la vie et des responsabilités qui incombent à tous en cette matière. Pour eux comme pour tout catholique, il est impossible de participer à des campagnes d'opinion en faveur de telles lois, et il n'est permis à personne de les soutenir par son vote. Quand l'action politique est confrontée à des principes moraux qui n'admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis, l'engagement des catholiques devient plus évident et se fait lourd de responsabilités. Des questions si importantes telles que le respect de la vie, la protection des embryons humains, la défense de la famille, l'éducation des enfants, sont malheureusement menacées dans différents pays par des législations ou des projets de loi qui exigent la vigilance et l'engagement pratique de toute personne honnête et responsable. Dans un moment de crise comme celui-ci, dit le pape François, il est urgent que puisse grandir, surtout parmi les jeunes, une nouvelle vision de l'engagement politique, et que croyants et non-croyants, ensemble, collaborent à la promotion d'une société où les injustices peuvent être surmontées et où chaque personne serait accueillie et pourrait contribuer au bien commun selon sa propre dignité en mettant à profit ses propres capacités. La voie de la conscience et l'exigence de la vérité. La vérité se manifeste à l'homme dans sa conscience. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voie qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, résonne au moment opportun dans l'intimité de son cœur. « Fais ceci, évite cela. car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. Confère Romains 2, 14-16. Mais il ne faut pas se leurrer. La conscience n'est pas un juge infaillible. Ce n'est pas elle qui détermine d'une manière catégorique et sans erreur ce qui est bien et ce qui est mal. Car la conscience peut se tromper, par ignorance ou par une mauvaise appréciation des situations, ou encore par un aveuglement dont on peut être plus ou moins responsable. La conscience peut s'atrophier si l'on ne prend pas soin de se former. Elle peut s'endurcir si l'on s'installe dans les péchés. Elle peut aussi s'aveugler si l'on refuse par orgueil ou par passion d'être sincère avec soi-même, car on finit par se convaincre qu'est vrai et bon ce que l'on voudrait que soit vrai et bon. Comme le dit l'apôtre Paul, la conscience doit être éclairée par l'Esprit Saint. Elle doit être pure. Elle ne doit pas falsifier avec astuce la parole de Dieu, mais manifester clairement la vérité. Pour former leur conscience, les chrétiens sont grandement aidés par l'Église et par son magistère. L'autorité de l'Église, qui se prononce sur les questions morales, ne lèse en rien la liberté des chrétiens. Elle est toujours et uniquement au service de la conscience, en l'aidant à ne pas être ballottée à tout vent de doctrine au gré de l'imposture des hommes, à ne pas dévier de la vérité sur le bien de l'homme, à atteindre sûrement la vérité et à demeurer en elle. Prenons exemple de ce grand homme que fut Thomas More. Malgré son intelligence, ses dons et sa culture, il ne faisait pas confiance qu'à la seule voix de sa conscience, mais s'appuyait surtout sur sa foi en l'Église. On lui reprocha lors de son procès de se trouver en désaccord avec le roi et avec la presque totalité des évêques et des politiciens. « J'ai avec moi, répondit-il, les saints et les sages de tous les temps, le conseil général de la chrétienté. » Car les saints évêques dont j'ai parlé sont plus de 100 contre chacun de vos évêques. Et contre un de vos conseils ou de vos parlements, et Dieu sait ce qu'ils valent, j'ai pour moi les conciles réunis depuis 1000 ans. Et pour ce seul royaume-ci, j'ai tous les royaumes chrétiens du Christ.
Sir, the journey.